Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans notre émission Underscore. Je peux vous dire qu'à l'écran il y a une montagne de pixels, elle serait encore plus belle si mon câble relié à l'écran serait serti d'or et de diamants. Ça tombe bien, notre magicien MM Human va vous en parler.
Waouh, de l'or et du diamant? C'est magique. C'est au doigt?
Non, c'est pour mettre derrière les machines. Bonjour
non.
Cécile.
Bonjour MM Human, bonjour Ododo, bonjour Maître Belle.
Hello.
Salut tout le monde.
Et bonjour les auditeurs. Et oui, cette semaine, nous avons une émission toute spéciale qui vous parlera de quelque chose qui se situe derrière les ordinateurs, à savoir...
Les connecteurs. Les connecteurs voilà. Vidéo en l'occurrence.
Mais tout de suite, un peu d'actu?
Oui, qu'est-ce qu'on a à l'actu?
Un patron toulousain revend son entreprise de jeux vidéo à ses salariés. Il ne souhaitait pas revendre à une multinationale étrangère. Il a donc proposé à ses employés de reprendre son entreprise sous une forme de scope.
Le Bitcoin serait un désastre d'après l'un de ses pionniers. Ray Dillinger, qui a participé au début de cette crypto-monnaie, estime maintenant qu'il ne correspond plus à l'idée initiale et au contraire est devenu ce qu'il cherchait à remplacer, en plus d'être un désastre environnemental et social.
Scriptomanen, une nouvelle plateforme poursuit l'évolution des CGU, des services en ligne. Les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères proposent Open Terms Archive, une base de données des CGU, ainsi que des outils Scriptomanen, mettant en évidence les modifications dans le temps des conditions générales d'utilisation des plateformes numériques, qui sont souvent très longues et obscures. Reste à savoir s'il sera mieux utilisé que des outils existants comme TOS ou DR.
TOSDR, ça veut dire Terms of Service Didn't Read. Okay. Chrome OS surpasse Mac OS et devient le second OS en part de marché. Doit-on s'en réjouir ? Pas sûr, même si c'est basé sur du libre, ça reste un instrument de contrôle de plus pour Google.
Arte lance une émission sur Twitch autour du jeu vidéo. Arte, la chaîne culturelle européenne, part en live sur Twitch dès le mercredi 3 mars 2021 pour notre émission dédiée au gaming jour de play. Tous les deux semaines, donc la prochaine sera donc le 17 mars. Oh bah dis donc, ils se lancent tous sur les réseaux et... Ah oui, ils s'y mettent, hein.
Firefox 86 nous propose une protection totale des cookies. La prochaine version de Firefox maintiendra une cookie jar séparée pour chaque site, à l'exception des cookies explicitement partagées par l'utilisateur.
Signature d'une convention de partenariat entre Enedis et OpenStreetMap. Enedis s'engage à enrichir les données ouvertes et fournir des images pour aider à compléter les cartes.
Le terme « digital » se traduit bien par « numérique » en français. C'est la commission d'enrichissement de la langue française qui le dit. Ouf !
Oh ! Enfin, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Le support 68K arrive enfin officiellement dans LLVM. Oui. Ça y est, le bac 1 pour les CPU de la famille 68000 est arrivé dans les dépôts officiels des sources du projet.
C'est cool, c'était tout pour les actus.
Et oui, et on se retrouve après avoir écouté Toxtyle Space Invader pour après nous retrouver au sujet sur les connecteurs vidéo.
T'avant rythme sur des boutons de plastique, les yeux rivés sur mon tube cathodique. Je m'accroche pur à mon joystick. Des aliens de fer en rang symétrique foncent sur la terre et c'est la panique. De ma base lunaire intergalactique, je tire au laser dans la mosaïque. Je suis l'homme computer, fils de Space Invader. Où est ta haie de corps, mon dieu Ice Core? de Space Invaders. Je connais pas la peur du game over. Guerrier solitaire en soupule acrylique, je défie les chimères des nouveaux mondes électroniques. Trois minutes s'éclairent pour une somme modique. Comme l'éclair dans des tableaux hypnotiques. Je passe en mode expert, la vitesse est diabolique. Je n'ai plus d'adversaire que mon enveloppe physique. Dans mes hémisphères, pousse des fils électriques. La mutation s'opère, je deviens bionique. Je suis l'homme computer, fils de Space Invader. Numérique, plus je gagne, plus je me perds, plus mon temps est amnésique. Le pixel est la lumière des attractions électroniques. Le pixel est la lumière, le pixel est ma lumière.
Tu as branché Bong sur la prise d'antenne de la télé noir et blanc. Tu t'es excité sur les boutons des bornes d'arcade de Space Invader. Tu as fait creuser des lemmings sur ton Atari tout neuf. Tu as branché ta Mega Drive sur une prise Péritel pour un Mortal Kombat. Tu as toujours de la musique de Tetris dans la tête. Tu as fait courir Lara en mini-short dans la jungle. Tu as joué au bowling dans ton salon sur Wii. Tu as roulé en Ferrari en HDMI sur Gran Turismo. Tu t'es vidé la tête dans les transports sur Candy Crush. Tu as chassé des Pokémon dans la rue. Tu t'es envolé dans ton casque VR. Le pixel est ta lumière.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau!
C'est beau, c'était un petit poème de Tucky Style qui était associé à sa vidéo. Donc je vous invite à voir le clip, il s'amuse bien avec son petit Space Invader.
Super.
Mais tout de suite, passons au sujet du jour.
Jingle.
Le sujet.
Et pour ce sujet, je voulais vous faire un petit historique des différents connecteurs vidéo et des signaux qu'ils peuvent véhiculer pour vous permettre de comprendre pourquoi certains adapteurs sont pas chers du tout, certains adaptateurs, et puis pourquoi d'autres convertisseurs sont bien plus complexes et chers. J'éviterai quand même de parler de toutes les variantes mini et micro des connecteurs, hein, parce que c'est comme l'USB, en général la seule différence c'est la taille du connecteur et le prix des adaptateurs du coup. Alors d'abord un petit rappel sur la vidéo analogique. Avec la télévision analogique, il faut décrire une image en mouvement. La méthode utilisée à l'origine est de transmettre un signal décrivant la luminosité voulue, l'intensité, pour une partie de l'écran, et de parcourir cet écran en ligne droite, à peu près, hein, à peu près horizontalement, en commençant par le haut, puis en continuant avec la ligne du dessous jusqu'en bas de l'écran. Pour que le téléviseur sache quand commencer le balayage de l'écran, pardon, et à quelle partie de l'écran, à quel pixel le signal correspond, il a été convenu d'envoyer des impulsions pour indiquer le début de l'image et le début d'une ligne. On parle de synchronisation, parce que le téléviseur va se synchroniser sur le signal qui est reçu. Pour envoyer tout ça à tous les foyers, il faut d'abord combiner ces différents signaux. On a alors un signal qui commence par un large plateau pour la synchronisation verticale, on commence une image, puis l'information de ligne répétée plusieurs fois, c'est-à-dire une impulsion plus courte pour indiquer le début de la ligne, suivi du signal venant du capteur de la caméra indiquant la luminosité de la ligne du début à la fin. Donc c'est un signal analogique hein, pour l'instant. Ensuite, pour que ce signal puisse voyager sur de grandes distances, on va devoir augmenter sa fréquence et donc le moduler. On va prendre une fréquence fixe, on parle de fréquence porteuse, qui va changer en fonction du canal, donc de la chaîne à émettre, dont on va modifier l'amplitude ou la fréquence, elle-même légèrement autour de la fréquence de base, et envoyer ce signal amplifié à une grande antenne. Donc on a fait une modulation de la fréquence porteuse avec le signal vidéo. Ah oui, puis il y a le son aussi à envoyer. Alors il y a encore des modulations diverses par-dessus le signal vidéo. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Bien sûr, déjà, là, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur les détails. Entre le nombre de lignes, la fréquence des images, parce que suivant les pays, on est à 50 Hz ou 60 Hz sur le secteur. Et bizarrement, les gens se sont dit, on va prendre la même fréquence, parce qu'en fait, ça utilisait plus ou moins cette fréquence-là. Et puis la couleur est arrivée, il a fallu rajouter cette information par-dessus le signal existant, tout en permettant au téléviseur noir et blanc de continuer à fonctionner. Différentes normes sont alors apparues pour coder ça, le PAL, le CCAM, le NTSC et toutes ces variations, avec une modulation supplémentaire sur l'information de luminosité. La télé, elle, va devoir faire le travail inverse, filtrer le canal choisi pour éliminer les autres et récupérer le signal en démodulant tout ça. Et pour chaque action, une partie des circuits à l'intérieur de la télé récupère un des signaux dont on a parlé pour au final avoir chaque signal séparément. Les informations de luminance, c'est-à-dire l'intensité, la chrominance, donc la couleur codée sur une seule valeur, et ces deux sont recombinés pour obtenir trois couleurs séparées, le rouge, le vert et le bleu, qui chacune va donc commander un canon électron dans le tube cathodique. Pour les télévisions couleur, il y a trois canons à électrons tout au fond. Et puis il y a l'information de la synchronisation, donc la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale qui dit on recommence une image. Et tous ces signaux-là, ils vont arriver par la prise antenne. Au départ, il n'y avait que ça sur les téléviseurs. Et la prise antenne, elle transporte le signal modulé venu de l'antenne sur le toit, c'est pour ça que ça s'appelle la prise antenne, avec donc tous les canaux en même temps. Dans ce signal, il y a toutes les chaînes qu'on reçoit directement. Les micro-ordinateurs, au début, avaient parfois une sortie uniquement, une sortie antenne, produite par le modulateur. Donc il y avait un petit modulateur dans l'ordinateur qui créait une fausse chaîne de télé, et la télévision, elle, voyait l'ordi comme une chaîne de télé normale. Et puis, il y a eu donc la vidéo composite. Donc ça, c'est les prises qui s'appellent RCA. En fait, c'est le nom d'un fabricant américain de postes de radio. On l'appelle aussi prise Cinch. Elle transporte le signal vidéo directement sans passer par un modulateur. Donc en fait, elle ne peut pas en transporter plusieurs, elle ne transporte qu'un seul, c'est un signal vidéo puisqu'il n'est pas modulé. Par contre, le fait d'éviter la modulation, ça fait une étape en moins dans la transformation et donc la qualité est quand même légèrement meilleure. Et surtout, on n'a plus besoin de régler le canal sur la télé, puisque il suffit à la télé de lui dire d'utiliser le signal qui est sur la prise qu'on a branchée. Cette prise-là, vous la connaissez sûrement, elle est jaune, c'est une petite prise ronde et jaune, et souvent accompagnée de deux prises identiques, mais blanches ou rouges, ça c'est pour le son, il y a la stéréo, et le son voyage séparément de la vidéo. Il y a la prise S-Video, alors aussi dite YC, ou Lumachroma, et là en fait, le signal composite, il contient à la fois, c'est pour ça qu'on dit composite d'ailleurs, il contient à la fois l'information de luminance, donc l'intensité lumineuse, et la chrominance, c'est-à-dire la couleur. Et il arrive souvent que l'écran ait du mal à faire, en tout cas la télévision, ait du mal à faire la différence et affiche bizarrement, avec un manque de netteté. Donc la prise vidéo fait voyager ces deux signaux séparément, donc l'information de luminance, qui en général contient aussi la synchro, parce qu'il faut bien la mettre quelque part, et puis l'information de chrominance, donc la couleur. Ce qui fait qu'on enlève encore une étape de décodage, et du coup la qualité est encore un peu meilleure. Donc ça donne de meilleurs résultats. Mais toutes les prises, toutes les télévisions n'ont pas cette prise-là. C'est une petite prise qui s'appelle Mini DIN à 4 broches. Alors il y a d'autres trucs comme les composantes. Souvent sur les écrans, les écrans cathodiques, les moniteurs cathodiques pour ordinateurs de très haut de gamme avaient des prises à l'arrière, 5 prises rondes.
On trouvait ça en télévision par exemple.
Aussi, ouais, sur certaines télés très chères. Donc des rouges, verts, bleus et puis deux autres pour la synchro. Alors en fait, elles transportent la couleur, mais c'est pas rouge, vert, bleu, c'est un autre espace de couleur. Bon, mais c'est très rare. Et puis il y a la SCART, que nous on connaît sous le nom de Péritel, la prise Péritélévision, invention française. L'acronyme SCART, d'ailleurs, qui est utilisé dans les pays anglophones, veut dire Syndicat des constructeurs d'appareils radio-récepteurs et télévision et téléviseurs. Et en fait, elle a été rendue obligatoire rapidement sur les téléviseurs en France et en Europe, sur les télécouleurs. Par contre, elle est totalement absente aux US, où la plupart des micro-ordinateurs se limitaient à une sortie antenne ou vidéo composite.
Certains rétro gamers. Pour les petits jeunes, je te coupe un peu. Hein. C'est la fameuse prise qui est difficile à brancher hein, quand tu veux brancher ta console de jeux vidéo.
Ouais, c'est la prise qui fait presque 10 cm de long sur de large. Enfin, bon.
Qui est très difficile à atteindre.
Ouais. Et puis des fois, même les broches se tordent. Mais bon. Et certains rétro gamers américains découvrent d'ailleurs avec stupéfaction la qualité vidéo de certaines consoles de l'époque après avoir modifié, les avoir modifiées pour sortir le RGB. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la Péritel. Et en effet, même si elle est techniquement capable de transporter aussi un signal vidéo composite, la Péritel, elle, peut transporter un signal RGB avec une broche pour chacune des trois couleurs, donc rouge, vert, bleu, et la broche d'entrée ou de sortie composite servant alors pour passer le signal de synchronisation. Le téléviseur sait si un signal est présent et de quel type il s'agit suivant les tensions présentes sur deux broches qu'on appelle des broches de commutation. Alors, il y a la commutation lente et la commutation rapide, je vous passe les détails. La Péritel permet aussi de transporter le son en stéréo, donc il n'y avait qu'une seule prise. Même si elle était chiante à brancher, au moins il n'y en avait qu'une. Je ne parlerai pas des connecteurs sur les micro-ordinateurs eux-mêmes, par contre, parce que là, c'est vraiment... on en aurait jusqu'à demain. Entre le DB23 de l'Amiga ou le DIN 13 de l'Atari, qui n'ont absolument rien de standard. D'ailleurs, celui de l'Amiga, il y a quelqu'un qui a fait un financement participatif pour en refabriquer. Parce que du coup, ça ne se trouve pas, parce que ce n'était pas standard.
C'est ça, ça devient super rare en plus.
Voilà, et donc si vous avez un vieil ordi, utilisez bien le câble qui va avec la machine. Parce que même si la prise est la même sur un autre ordi, le brochage n'est pas forcément le même. Surtout sur les DIN, hein, les petites broches rondes, les petits connecteurs ronds. Des fois, c'est les mêmes prises, mais c'est pas les mêmes signaux aux mêmes endroits. Donc si vous envoyez du 12 volts là où ça ne doit pas aller, ça peut...
Ça grille.
Par contre, sur les ordinateurs de type PC, quand ils sont apparus, il y avait d'autres trucs, comme le CGA et le GA. En fait, c'est des standards de cartes graphiques, donc des résolutions standards avec une palette et tout. Mais il y avait aussi des connecteurs qui allaient avec. Et donc, les premières cartes vidéo, elles n'étaient pas vraiment analogiques. Typiquement, l'interface CGA avait trois signaux RGB, mais en numérique. C'est-à-dire que chaque signal, en fait, c'était 0 ou 1. C'était pas un signal analogique qui va de 0 à 5 volts avec toutes les tensions entre les deux. Et puis, il y avait une broche intensité. Qui ça rajoutait en fait une quatrième information, et avec ça on pouvait faire 16 couleurs. Bon, c'était pas génial, mais c'est déjà pas mal à l'époque. Le GA a remplacé ça, le signal d'intensité, par trois autres signaux RGB, donc en fait ça faisait 64 couleurs, mais de puissance 6. Et les deux utilisent un connecteur DE9, alors souvent on dit DB9, mais en fait c'est pas le nom exact. Un petit connecteur à 9 broches qui est très utilisé parce que c'est aussi celui des ports série, entre autres, et des joysticks Atari Amiga. Et puis, il y a eu le VGA. Donc, ce connecteur, vous l'avez sûrement déjà vu. Un petit connecteur bleu qui a la même taille que le DB9, que le DE9, mais sauf qu'il y a 15 broches avec 3 rangées. Et là, les signaux qu'il transporte sont similaires à ceux de la prise Péritel. Donc, c'est vraiment de l'analogique. Il y a les signaux rouge, vert, bleu analogiques. Par contre, les fréquences ne sont pas du tout les mêmes, parce que les résolutions possibles sont plus importantes, donc les fréquences sont plus élevées, et en général, les moniteurs VGA n'affichent que du VGA. Donc on ne peut pas vraiment brancher un ordi type Oric sur ces trucs-là, sauf certains qui acceptent des fréquences un peu plus larges, typiquement le 15 kHz. Il y a même un site qui recense les moniteurs qui supportent ça. Et certaines cartes vidéo pouvaient être programmées à l'époque pour envoyer des signaux compatibles avec la télé. Donc on pouvait trouver des câbles VGA vers Péritel, mais ça marchait qu'avec ces cartes vidéo et des pilotes spécifiques. Et le connecteur VGA a aussi des broches qui permettent d'identifier le moniteur. Alors il y a eu des évolutions, si vous voulez lire sur le blog, hein, comme d'habitude, AAA.fr, il y a des liens et puis il y a un peu plus de détails. Et puis au bout d'un moment, bah, on a eu les écrans LCD qui sont arrivés et on a voulu changer tout ça parce que le VGA en Full HD, c'est encore faisable, mais c'est un peu flou, ça bouge et tout. Donc voilà. Donc on a introduit des connecteurs pour une interface numérique. Donc là, c'est plus du tout des signaux analogiques. C'est vraiment, on envoie pour chaque pixel, on envoie les données un bit après l'autre. Donc on envoie des groupes de bits, 1, 0, 1, 0, etc. Sur typiquement ce qui se passe aussi en Ethernet, en USB, donc c'est des paires différentielles. C'est-à-dire que sur un fil, on envoie le signal, et sur l'autre fil, on envoie l'opposé du signal. Et ce qui fait que c'est plus robuste, c'est plus robuste aux parasites, typiquement. Ça permet d'avoir notamment des câbles un peu plus longs. Et ce connecteur donc DVI qui est apparu à ce moment-là, il permet de transporter ça, mais aussi les informations VGA. Donc c'est pour ça qu'il existe des adaptateurs VGA-DVI, parce qu'en fait c'est juste du câblage. Donc ça c'est pas cher à faire, hein, c'est juste des fils et des connecteurs. Sauf que du coup, le DVI, il y a trois types. Il y a le DVI D pour digital, donc numérique, donc que ce que je viens de décrire là. Le DVI A pour analogique, donc il passe que les signaux VGA. Et puis le DVI I qui fait les deux. Donc des fois vous avez un connecteur DVI qui ne rentre pas dans un connecteur DVI. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça.
C'est bizarre.
Voilà. Et puis après il y a eu le HDMI. Et puis il y a eu le DisplayPort aussi, qui sont des évolutions de ces trucs là. Et puis il y a Apple aussi qui fait souvent des trucs bizarres. Ils ont bidouillé un port DVI, ils ont changé le connecteur et ils ont rajouté du 25 volts pour alimenter leur cinéma display. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, ces connecteurs non standards, bah, c'est pas refabriqué. Donc pour, si on veut se brancher sur ces trucs-là, typiquement sur une carte vidéo d'un Mac G4, si on veut brancher un écran DVI, bah, on peut pas. Alors qu'en fait, il suffirait d'avoir les câbles, quoi. Mais bon. Donc, vous voyez, c'est très varié tous ces connecteurs. Et encore, j'ai été rapide. Donc comme d'habitude, hein, on vous mettra plein de liens sur AAA.fr.
Restez connectés.
Merci MMUman pour tes explications. Effectivement, c'est un survol du sujet qui pourrait être très long. Et ça nous rappelle tout plein de souvenirs, notamment la prise antenne que ouais. Ma mère a détesté qu'on touche parce qu'elle avait peur qu'on casse la télé à force de régler la bonne chaîne pour la console de jeu.
Tu m'as enlevé la troisième chaîne.
C'est ça, ouais, on remplaçait les chaînes avec la console, c'était sympa. On se retrouve après avoir écouté une petite musique.
Ouais.
À tout de suite pour l'agenda. Tu mettras ça sur le Discord ?
Ouais.
Oui.
Futurisme génomenclature. C'est une musique qui a été faite pendant le Covid, pendant la pandémie, avec différentes choses, des synthés virtuels nommés Knifonium.
Knifonium. Ouais, ouais, c'est dur à dire en tout cas.
Non, en tout cas, on passe à l'agenda.
Qu'est-ce qu'on a?
Rappelons que l'agenda est suivi de la semaine passée lors de Rediffusion le samedi.
Le Fossacia Summit 2021 en ligne avec 190 conférenciers et plus de 3000 participants attendus. C'est l'occasion de voir ce qui se fait normalement à l'autre bout de la planète autour du libre. Ce sera du samedi 13 au dimanche 21 mars en anglais, en ligne et sur inscription.
La centième du libre à vous. C'est le mardi 16 mars à 15h30 à 17h. En ligne sur Radio Cause Commune.
Repair Café au Val. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour apprendre à réparer soi-même et comprendre comment fonctionnent nos appareils, pour faire des économies et surtout passer un moment convivial de partage et d'entraide, venez participer au Repair Café. Ça c'est mardi 16 mars de 16h à 17h sur inscription au Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence.
La discute, faut-il faire évoluer le métier d'ingénieur? La bibliothèque de l'INSA Rennes reçoit l'autrice du livre « Merci de changer de métier ». L'être humain qui robotise le monde, Célia Isoar, sous la forme d'une table ronde en présence de Patrick Morin, chargé de mission développement durable et maître de conférence au sein du département GMA. L'événement sera l'occasion de débattre autour de la question « Faut-il faire évoluer le métier d'ingénieur ?» Un sujet très actuel au cœur des enjeux des écoles d'ingénieurs. Ce sera le 18 mars 2021 à 18h30 en direct sur YouTube. À YouTube quoi.
Et le CDI Tour, étape 2 à Cray, découverte des tiers-lieux de Cray. Et à Cray, il existe de nombreux espaces de travail partagés qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes et inédites. Ce sera le vendredi 19 mars, alors 9h30 au 8 Fab Lab, rue Courcomer, 11h, le Pays Centre, rue Aristide Dumont, 12h, usine vivante, 24 avenue Adrien Fayol et présentation de la chignole.
Rencontre avec Stéphane Bortzmeyer autour de son ouvrage « Cyberstructure, l'Internet, un espace politique ». À l'occasion d'un livre en fait de la bibliothèque municipale de Quintigny et l'association Guagol organise une rencontre avec Stéphane Bortzmeyer autour de son ouvrage Cyberstructure, l'Internet, un espace politique aux éditions CNF en direct sur Peertube le vendredi 19 mars 2021 à 20h.
Cyber World Cleanup Day. Le Cyber World Cleanup Day, c'est une journée pour supprimer les données stockées dans le cloud sur les serveurs de l'entreprise et sur nos équipements numériques afin de contribuer à réduire et à prendre conscience de notre empreinte numérique. Particuliers, écoles, collectivités, entreprises, rejoignez le mouvement. Je crois que OVH a pris de l'avance. Ça, c'est le 20 mars.
Sur le cloud. Ah non, le cloud, pardon.
Le cloud.
Bien joué. Oh là là. Et des liens. Alors, nous avons quoi? De l'impression 3D de pâte à tartiner de noisette.
Sur la chaîne Eureka, peut-on annuler la dette publique?
Sur Akaday, l'historique est de couper, copier et coller.
Sur son blog, Karl Chenet se plaint des relous du télétravail, les chefs et autres gens inutiles.
Une interview de Jean-François Del Nero, partie 1 sur l'histoire du HFC, HXC, l'émulateur de disquettes, de lecteur de disquettes.
Le site Down for Everyone or Just Me vous dira si un site web est en ligne ou non, parce que parfois on pense qu'il est cassé alors que c'est juste chez nous.
Sokoban, dans un espace non euclidien.
Et enfin, l'archive de tous les numéros des magazines Atos et STMAG NG.
Waouh!
Pour les ataristes.
Mais oui. Passons à l'astrologique.
J'allais le dire.
Qui frotte la boule? SF, quand il m'a dit qu'il était mon père, C'était sur le peer-to-peer.
6 admin. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Toutes les datas volent dans le ciel. Une pensée pour OVH.
Ouais.
C'est naze.
Mad Bell.
Technofel, une pignotte, c'est un mix entre une pin-up et un naze.
Je sais pas. Nerd, arrête avec tes images animées en boucle, sinon je te mets une gif.
Oh, Demo Maker, la génération procédurale, c'est la génération dans laquelle on trouve le plus de bureaucrates.
YouTuber, la vidéo arrive bientôt. À bon encodeur, salut.
Wow. Eh bien, nous avons fait encore une belle émission, bien longue encore.
On a débordé, comme d'hab.
Ouais, mais bon, il y avait de quoi rire. Je crois que les sourires sont encore sur nos bouches, même si certains l'ont un peu de travers avec ce nuage qui a disparu dans le ciel.
Ah bah c'est un nuage toxique du coup maintenant.
Nous ne parlons pas d'OVH du tout.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. Et rassurez-vous, notre site internet n'était pas là-bas. Dieu merci.
Non.
Et retrouvez-nous en podcast sur AAA. Et à très bientôt, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye. Bye, bye. We'll be right back.